Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons aujourd'hui Pierre Goudiaby Atepa. Bonjour Pierre Goudiaby Atepa. Pierre Goudiaby Atepa, vous êtes né dans une famille casamançaise il y a près de 70 ans. Après une enfance passée à Dakar, vous partez faire des études d'architecture aux États-Unis. Est-ce qu'il faut être né dans une famille riche pour faire ça, pour partir faire des études de l'autre côté de l'Atlantique ?
Ben non, à l'époque déjà, je pense qu'on n'était pas si riche que ça. Il y avait ce qu'on appelait des bourses. Et quand on se comportait bien à l'école, parfois on pouvait mériter d'avoir une bourse.
Donc vous étiez bon élève ?
C'est une longue histoire parce que j'étais très mauvais élève au début. J'ai eu une petite raclée de papa et depuis la raclée, j'étais parmi les trois premiers. Voilà. Parfois, c'est pas mal
une raclée. Et c'était une bourse de l'État.
C'était une bourse américaine, ASPAO, comme on l'appelait avant. C'est the Africa American Institute qui offrait des bourses. Donc, en fait, j'avais trois bourses parce qu'à l'époque, on avait quand même un peu le choix. J'avais une bourse pour venir ici en France, une pour aller au Canada. Et une pour aller aux États-Unis. J'ai bien sûr choisi les États-Unis.
Le monde était ouvert à l'époque.
Absolument. Non seulement ça, mais bon, j'étais assez bien en anglais. Et pour moi, déjà, je voyais que le monde, pour réussir dans le monde déjà de l'époque, qu'il fallait maîtriser l'anglais.
Alors depuis, en 40 ans de carrière, vous avez construit beaucoup de choses, de l'immeuble de la BCAO à Dakar ou à l'aéroport de Banjul en Gambie, et puis bien d'autres choses, on en parlera au cours de l'émission. Est-ce qu'il y a un style Goudiaby Atepa ?
Bien, je dois dire que j'ai été très influencé par le président Senghor, qui à l'époque nous avait dit qu'il fallait nous inspirer d'une théorie qu'il avait sortie, qui était le parallélisme asymétrique. On ne comprenait pas trop, mais on a essayé de comprendre. En fait, ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait un enracinement à nos valeurs traditionnelles, à nos valeurs africaines, et une ouverture vers le monde. C'est ce qu'il appelait le parallélisme asymétrique. Et de ça, j'ai essayé de travailler personnellement la théorie. Et ça a fait qu'il y a parfois des projets que nous faisons qui peuvent prétendre être de cette théorie-là du parallélisme asymétrique.
Par exemple ?
Bon, la BCAO déjà, vous savez que la BCAO que j'ai fait avec mon confrère Cher Ngom, que je salue au passage, nous nous sommes inspirés par exemple du baobab. On a dit que c'était les racines du baobab.
Ou du fromager.
Et du fromager de Casamance. En fait, on voit que c'est plus du fromager que du baobab. Parce que si vous voyez la différence. Et pour nous, la Banque centrale devait, l'immeuble devait symboliser la stabilité du franc CFA déjà à l'époque et montrer l'ouverture vers le monde extérieur.
Alors, au cours de cette émission, Pierre Goudiaby Atepa, nous allons parler encore de votre parcours, de votre métier, des liens que vous avez noués avec les milieux politiques africains, mais nous parlerons aussi de ce que l'architecture dit du développement des économies africaines et de ce que l'architecte que vous êtes a à dire aux dirigeants africains d'aujourd'hui et de demain. Une première question de Frédéric Maury.
Alors, Monsieur Goudiaby Atepa, une première question avant de revenir à l'architecture africaine, une première question plus internationale et qui est aussi une réaction à l'actualité chaude, l'actualité de cette semaine, c'est l'annonce de Donald Trump du retrait de l'accord de Paris. Est-ce que, voilà, en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, on sait que l'Afrique est vraiment la première concernée par les problèmes de climat, est-ce que vous avez une réaction à cette annonce du retrait des États-Unis ?
Mais bien sûr, je suis attristé par cette décision du président Trump, qui au passage se comporte comme un entrepreneur sans foi ni loi. Je suis désolé, il ne m'appartient pas de porter des jugements, mais j'estime que les États-Unis, compte tenu du rôle qu'ils jouent dans le monde, devraient nous donner un exemple peut-être plus positif de ce qu'il faut faire de cette planète. Et j'ai beaucoup apprécié le discours hier du président Macron, qui a mis les choses au point. Et je suis rassuré parce que je vois que les réactions des uns et des autres nous disent que non, il peut décider de se retirer, mais que les autres États ne vont pas se retirer. Je savais qu'il y avait une petite inquiétude jusqu'à ce matin avec...
Alors, on précise que l'émission est enregistrée le vendredi matin, donc au lendemain de l'annonce de Donald Trump, et, voilà. Et donc diffusée ce
oui,
samedi.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai vu qu'aujourd'hui, hier, donc, la Russie s'est désolidarisée de la décision de Donald Trump. Donc, je pense qu'il y a encore un peu d'espoir dans l'air. Il y a également que... je suis sûr, connaissant les États-Unis, qu'il va y avoir une réaction très violente de la part des Américains eux-mêmes, et je ne suis pas sûr que cette décision-là puisse se concrétiser.
Qu'est-ce que vous appelez une réaction très violente ?
Vous savez, les Américains, c'est quand même un peuple très digne, un peuple qui réagit quand il le faut. Et je suis sûr, vous verrez dans les jours qui viennent, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des pétitions, il va y avoir de la pression sur Donald Trump pour qu'il revienne sur sa décision.
Est-ce que cette crise climatique, on l'aperçoit au Sénégal déjà ?
Bien sûr, d'abord au Sénégal. Vous savez que nos côtes sont chahutées à cause de ce réchauffement climatique. Nous avons des pans entiers de notre côte qui ont été envahis par les vagues. À Rufisque, par exemple, il y a un cimetière qui a disparu. À Sali, que vous devez connaître, il y a des hôtels qui ont disparu. Donc, c'est très sérieux. Et nous ne comprenons pas qu'à ce niveau-là de responsabilité, le président des États-Unis ait décidé de ne pas prendre en considération toutes ces catastrophes qui ne feront que s'accentuer.
Je précise, juste pour nos auditeurs, que Sali, auquel vous venez de faire allusion, c'est une station balnéaire qui est au sud de Dakar, sur ce qu'on appelle la petite côte. Pierre Goudiaby, Atepa, l'Afrique connaît un vrai boom démographique et logiquement une forte croissance urbaine, mais les villes africaines, ou peut-être pour cette raison, les villes africaines donnent souvent l'impression d'un chaos architectural et urbanistique. Diriez-vous que cette croissance urbaine africaine se fait sans politique d'urbanisme, sans vrai bon sens ?
Oui, et là nous avons une chance inouïe aujourd'hui, c'est que nous pouvons rêver, nous pouvons réaliser ce que nous appelons des villes nouvelles. J'ai tenu une conférence il n'y a pas longtemps à Marrakech sur ce qu'on appelle aujourd'hui les villes intelligentes, et je pense que c'est une opportunité extraordinaire que l'éclosion, je l'espère, de ces villes nouvelles, villes intelligentes, cette éclosion va nous permettre de redéfinir l'espace. C'est ce que nous faisons actuellement et je m'en réjouis avec la ville nouvelle de Damniadio. Nous sommes en train...
Où est-ce ?
Damniadio, c'est à 20 km de Dakar. C'est l'initiative du président Sall de construire une ville toute nouvelle qui a commencé et qui, à mon humble avis, est en train de progresser de manière intelligente. Et c'est encore une fois, ce que nous disons, c'est qu'il faut créer des villes nouvelles, mais des villes intelligentes.
Qu'est-ce que vous appelez une ville intelligente,
justement ? Une ville intelligente, c'est une ville, d'abord, qui utilise toutes les nouvelles technologies de l'information, on dit plus nouvelles, les technologies, pour s'adapter au rythme du monde nouveau. Une ville nouvelle, c'est une ville qui est écologique, qui est écolo, qui va utiliser, encore une fois, tout ce que nous donnent les nouvelles technologies. À cela, d'ailleurs, j'ai ajouté la notion de village intelligent. Donc, je pense qu'en mettant les deux ensemble, on doit pouvoir trouver des solutions, non seulement trouver des solutions... excusez-moi du terme, à la pagaille qu'il y a dans nos villes, mais également créer de la richesse. Et je vais m'expliquer. Nous avons parlé de Damniadio, j'ai préconisé pour la ville nouvelle du Lac Rose que le président Sall m'a demandé de, pour laquelle le président m'a demandé de réfléchir, un système nouveau dans lequel nous allons essayer de faire participer la population, pour ne pas dire les populations, au financement de la ville. C'est quelque chose de très simple. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui va montrer que la création d'une ville nouvelle peut se faire avec les populations locales, avec l'épargne publique. Il y a 40 ans, si vous aviez acheté un terrain de 1000 mètres carrés, d'un hectare, disons, aux Almadies, il vous aurait coûté 40 millions.
De CFA.
De CFA, oui, 40 millions de CFA en euros, je ne sais pas trop, mais enfin. Aujourd'hui, le même terrain, il a une valeur de 8 milliards. Ça a été multiplié par 200. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour le Lac Rose, si nous prenons, j'ai préconisé qu'on prenne pour bien le développer et bien structurer, un terrain de 1800 hectares, et qu'on demande aux Sénégalais, écoutez, si vous mettez 10 000 francs, si vous mettez, disons, 1 million pour votre fils qui vient de naître,
voilà,
aujourd'hui, quand il aura 21 ans, le million que vous avez donné, il aura une valeur d'au moins 100 millions. Donc, ça nous permettrait, dans ce cas précis, dès le départ, d'avoir à peu près 180 milliards de francs CFA. Vous ferez la traduction après.
Oui, on va sortir les calculettes.
Hein. Voilà, il faudra des calculettes. Mais prenons les proportions. Les 180 milliards que vous avez, c'est 1000 milliards dans 5 ans. Et le Sénégalais qui a mis son million, dans 5 ans déjà, il sait que son million a déjà une valeur de 10 ou 20 millions.
Oui, mais qui est-ce que... Donc, comment est-ce que le Sénégalais qui va acheter son terrain va financer à la fois l'achat de ce terrain et puis l'installation, l'implémentation de ces réseaux Internet?
C'est pas à lui de le faire, c'est au technicien de faire.
Mais qui... lui, où est l'argent?
Mais l'argent est là. Attendez, je vais vous expliquer. Vous le savez peut-être également, je suis le président de la Bourse. Et nous avons ce
qu'on parlera de ça tout à l'heure.
La BRVM,
voilà,
donc,
la Bourse
par des effets. Par des effets de levier, quand vous avez 180 milliards, vous avez tout de suite de quoi construire les infrastructures primaires de la ville. Et ensuite, le reste vient tout de suite automatiquement.
Oui, donc en fait, ce que vous dites, c'est que pour construire cette ville nouvelle, vous allez faire appel à l'épargne,
des
gens, etc. Absolument. Mais est-ce que vous pensez que la solution au problème des grandes villes africaines, celles qui existent déjà, pas les villes nouvelles, passe par la création de systématiquement d'autres villes nouvelles à côté arriver à régler les nombreux problèmes qui existent?
D'abord, il faut en même temps régler les problèmes qui existent. C'est la raison pour laquelle, utilisant toujours les nouvelles technologies, nous sommes en train, personnellement, de mettre au point ce que nous avons appelé, pour prendre cet exemple-là, une mairie virtuelle qui permettrait à chaque individu de pouvoir participer activement à la gestion de sa commune.
Qu'est-ce qu'il faut privilégier, Pierre Goudiabiatepa? L'aménagement urbain, les transports, la salubrité de logement?
Le problème, c'est que tout est devenu urgent, mais je pense que la salubrité et les infrastructures de base, c'est ce qui va faire que les villes vont prospérer.
Est-ce qu'à votre avis, en Afrique, en Afrique de l'Ouest notamment, il y a des villes qui s'en sortent mieux, dont qu'on peut citer un peu comme modèle en termes d'aménagement urbain ou,
Écoutez, je ne dirais pas trop de mal de la ville de Dakar, qui est à mon humble avis... En dehors du pillage de la corniche,
on va en parler,
on en parlera,
j'espère qu'on en parlera, qui est à mon avis une ville où il fait bon vivre. En fait, c'est ça qu'on cherche.
Alors justement, la corniche, vous êtes très très critique vis-à-vis des nombreux développements immobiliers. Expliquez-nous ce qui se passe sur cette corniche de Dakar.
Écoutez, c'est d'abord un scandale foncier parce que vous avez des gens qui prennent des terrains à 2000 francs le mètre carré et qui les mettent sur le marché à 1 million le mètre carré. Mais c'est pas ça fait que nous, au sein de la Perle, des SES Littoral,
association La Perle que vous avez fondée.
La Perle, voilà, que nous avons créée avec d'autres amis, Mokhtar Ba et d'autres. Ce que nous essayons de faire, c'est d'abord de conscientiser les Sénégalais eux-mêmes. Les autorités, oui, nous avons eu le président de la République a répondu à notre appel il y a 2 ans et demi, 3 ans, mais depuis qu'il est venu faire un tour, les choses se sont empirées. En ce sens que les gens prennent le domaine public maritime pour en faire un domaine privé. Alors que c'est là où, pour donner l'exemple, nous avions fait il y a 10 ans ce que nous avons appelé la place du souvenir. Il y a un peu plus, il y a 20 ans, j'ai offert la porte du troisième millénaire que vous connaissez à Dakar.
Une grande sculpture, oui.
Pour montrer que la corniche devait être aménagée. Alors, nous nous battons, c'est très difficile, parce qu'il y a des intérêts, j'allais dire, divers qui sont là.
Mais soyez plus précis, ces intérêts.
Mais je vais être plus précis.
C'est quoi, c'est les projets immobiliers
c'est des projets
privés
immobiliers, c'est des projets immobiliers privés, j'ai rien contre.
Mais vous demandez pas... en particulier la destruction d'un hôtel.
Oui, absolument. Il y a l'hôtel du Virage qui doit être démoli. Mais il y a surtout que le Théroubi, je donne des noms parce que trop c'est trop, l'hôtel Théroubi a pris une plage qui était une plage des enfants. Il construit sur la plage. Le président de la République est venu sur place. Il leur a demandé d'arrêter il y a 3 ans. Ils n'ont pas arrêté et on fait rien. En face de chez moi, il y a un espace qui est une ancienne carrière qu'on aurait pu aménager pour le public, qui est en train d'être aménagé par des privés et qui ont acheté à des coûts exorbitants des terrains, à 1 million de mètres carrés, pour y faire des résidences. C'est inouï.
Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas d'État. Puisque le président...
Oui, pour la corniche, on a comme l'impression qu'il n'y a pas d'État. Mais seulement, il y a des artifices qu'ils utilisent. La loi permet de déclassifier, mais la loi permet de déclassifier le domaine public maritime pour des intérêts publics. Mmh. Les fonctionnaires le font pour des intérêts privés moyennants.
Alors, Pierre Goudiébiatépa, vous êtes proche de nombreux chefs d'État africains. Vous avez construit beaucoup d'immeubles officiels. Tout à l'heure, on parlait de celui de la BCAO à Dakar. L'architecture que vous pratiquez, est-ce que c'est une architecture de pouvoir pour les puissants ou est-ce que c'est une architecture pour les gens, pour la vie quotidienne ?
Écoutez, je vous ai donné l'exemple de choses que j'ai faites qui sont pour tout le monde.
La place du souvenir. Ben, la place du souvenir, c'est une place.
Mais c'est des immeubles officiels. Enfin, ce sont quand même des monuments.
Non, je vais vous dire, c'est un reproche qu'on me fait souvent, c'est une remarque qu'on me fait souvent, mais je dois vous dire. Vous savez, si vous voulez faire de grandes choses, vous ne pouvez pas les faire sans les politiques. Nous essayons, d'influer le plus positivement possible pour que l'environnement, pour que les villes que nous devons bâtir soient des villes qui soient modernes, qui n'aient rien à envier aux villes modernes d'aujourd'hui. Donc, effectivement, je travaille beaucoup avec les chefs d'État parce que c'est à ce niveau-là qu'on prend les décisions.
Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut vous considérer comme un architecte de chef d'État pour les chefs d'État ?
Non, pas du tout. Non, attendez, ceux qui me font cette critique-là n'ont pas compris ce que c'est que l'architecture. Je n'ai jamais fait de palais pour un chef d'État. J'ai fait des hôpitaux, oui. Là, actuellement, nous travaillons pour parler des directives des chefs d'État pour la réalisation de l'école pour les métiers du pétrole et du gaz, parce qu'on en a parlé une fois dans une interview, et je pense...
Où ça ?
À Dakar, à Diamniadio, justement. Vous savez que le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz, et je pense que le président de la République a été très bien inspiré de vouloir créer une école pour que dans 5 ans, quand nous allons commencer l'exploitation du pétrole, que nous ayons des ingénieurs, des cadres, des techniciens supérieurs sénégalais ou autres d'ailleurs, qui soient formés sur place. Donc voilà des choses que je fais. En dehors de ça, bien sûr, nous faisons du social, nous faisons des logements sociaux, nous créons des villes nouvelles.
Vous créez des villes nouvelles.
Nous créons des villes nouvelles. Dans une ville nouvelle, il y a tout. Il y a du social, il y a du non-social, mais au moins c'est structuré. Et encore une fois, la décision est prise au sommet.
Alors Pierre Goudiébiatépa, nous allons redescendre de ces sommets quelques minutes pour un flash d'actualité. Et puis on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission dans 3 minutes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, aujourd'hui dans son format grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa. Pierre Goudiaby Atepa, au cours de la première partie de cette émission, vous nous avez expliqué en quelques mots votre parcours, les constructions auxquelles vous aviez contribué, en particulier de l'immeuble de la BCA de Dakar, mais aussi de Ville Nouvelle. Vous nous avez dit votre émotion face à ce qui se passait sur la corniche de Dakar. Alors, le Sénégal, parlons-en justement. Vous avez publié il y a 5 ans un livre qui s'appelle « Oser ». C'est aux éditions L'Harmattan. Vous y développez 12 idées que le Sénégal devrait adopter pour développer son économie et devenir émergent. C'est quoi ces idées? Enfin, on va pas faire les 12 dans le détail, mais globalement...
Pas les 12. Globalement, j'ai pensé qu'il fallait que nous réfléchissions autrement et peut-être que nous revisitions les fondamentaux. Je vais vous surprendre. Je pense d'abord qu'il faut instaurer l'anglais comme deuxième langue officielle de nos pays francophones. Je pense que c'est un must pour parler anglais parce que, vous le savez, le monde d'aujourd'hui, notamment avec les nouvelles technologies, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous partez avec un problème. Donc j'ai pensé qu'il fallait qu'on instaure l'anglais comme deuxième langue officielle des pays francophones. Enfin, en tout cas du Sénégal et au-delà des pays francophones.
Prenez de front la francophonie ?
Pas que je prenne, je pense que les choses doivent être complémentaires. Je ne dirai jamais qu'il faille renoncer à la francophonie, loin de là. Je suis quand même, j'allais dire, un adepte de Senghor, n'est-ce pas ? Ci-devant, francophone par excellence. Non, je dis simplement qu'il faut voir la réalité en face. Nos enfants doivent apprendre à parler l'anglais parce que aujourd'hui déjà et demain, c'est l'anglais qui va dominer le monde. C'est déjà le cas. J'avais déjà souhaité qu'on se rapproche du solaire pour développer notre continent. Et là, je vois que les autorités sénégalaises, depuis 3 ans en tout cas, le solaire est devenu un must pratiquement au Sénégal. Je parlais également des avantages des nouvelles technologies de l'information. Vous le savez peut-être, nous sommes en train de travailler pour lancer un satellite parce que, comme je le dis, toutes les solutions viendront du ciel demain. Donc les nouvelles technologies, il faut bien que nous puissions les utiliser à bon escient, que nous puissions les utiliser, par exemple, pour l'éducation. On ne peut pas continuer à faire l'éducation comme on le faisait de mon temps, il y a 50, 60 ans. Il faut qu'on introduise le e-éducation, le e, pour parler d'agriculture, le e-agriculture, le e-médecine. Et c'est pour cela que je parlais également à Marrakech, non seulement des villes intelligentes, mais des villages intelligents. Comment apporter tout ça pour développer nos pays ? Il y a également que j'ai souhaité qu'il y ait un service militaire obligatoire sous forme de service civique.
Frédéric Maury, une question.
Est-ce que certaines de ces idées sont dans le programme Sénégal émergent, quel grand programme économique?
Oui, quand je lis je ne dis pas que ceux qui l'ont fait ont lu mon livre, non, mais je vois beaucoup de convergences sur... D'abord, je me réjouis du fait qu'il y ait un gouvernement qui décline un programme. C'est déjà très bien. Qu'il faille l'améliorer, je suis d'accord.
Il y a quand même beaucoup de déceptions au Sénégal sur ce plan Sénégal émergent.
Oui, mais parce que je voudrais qu'avant la déception, que des gens d'abord positivisent. Vous savez, quand un gouvernement lance un programme, au lieu de dire non, ça ne vaut rien, je préfère les gens qui viennent dire oui, bon, mais on devrait pouvoir l'améliorer en faisant ci ou en faisant ça. Donc pour moi, le programme, c'est un programme qui tient la route. Il faut maintenant que les Sénégalais non seulement se l'approprient, mais voient comment, l'enrichir. Donc certaines de ces idées sont là-dedans, oui, parce qu'en fait, c'est des idées qui sont très simples.
Oui, dans ce livre, Pierre Goudiaby Atepa, dans ce livre qui s'appelle « Oser », je le rappelle, vous plaidez pour un développement agricole du Sénégal au-delà de la quasi-monoculture de l'arachide, même si c'est du coton. Or, l'agriculture africaine est menacée par le vieillissement de ses agriculteurs. Écoutez ce qu'en disait la semaine dernière Akinwumi Adesina, le directeur général de la Banque africaine de développement, à l'occasion de l'assemblée annuelle de sa banque, c'était à Ahmedabad en Inde, et c'est au micro de Mounia Daoudi, l'envoyé spécial de RFI.
Cette volonté politique par le gouvernement de l'Inde, c'est très important pour l'Afrique. Je suis aussi très impressionné par la grande participation de la secteur privé. Vous savez que le secteur privé, c'est le moteur de développement. Et troisièmement, les choses les plus importantes pour moi, c'est le jeune. Nous avons eu beaucoup de jeunes africains ici. Notre réunion annuelle a affirmé l'importance de faire l'investissement dans les jeunes. Les jeunes sont l'avenir pour l'Afrique.
Les jeunes dans l'agriculture, c'est important aussi.
Les jeunes dans l'agriculture, c'est extrêmement important. Parce que si vous prenez aujourd'hui l'âge moyen des paysans africains, c'est autour de 65 ans. Si on ne fait rien en 20 ans, il n'y aura plus les paysans qui vont nourrir l'Afrique. Donc, il faut changer la composition de main-d'œuvre dans le secteur agricole. Nous avons lancé cette initiative pour développer de nouvelles classes entrepreneuriales dans le secteur agricole avec les jeunes. L'année passée, la Banque africaine de développement a fait l'investissement de 800 millions de dollars pour créer cette initiative. Donc, on va le pousser dans tous les pays africains.
Alors, c'était Akinwumi Adesina. C'est bien joli, Pierre Goudiabi, n'était pas vos ambitions pour l'Afrique, pour le Sénégal, de e-learning, de e-agriculture, de nouvelles villes, mais où sont les jeunes? Quelle est la place des jeunes dans ce monde nouveau? Apparemment, ils n'ont pas de place.
Non, mais
ils
les
sont
jeunes,
sur la plage à Dakar. En
les
train...
jeunes sont... J'aime bien votre question et elle est importante. Je pense qu'il y a quand même des programmes qui sont en train d'être faits. Nous-mêmes, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, nous avons créé ce qu'on appelle Agropolis Afrique, pour essayer de voir comment insérer les jeunes dans l'agriculture. Et pour ça, le Sénégal, quand même, quoi qu'on dise, a un programme bien structuré qui marche pour l'emploi de plus de 200 000 jeunes pour l'agriculture, ça s'appelle PRODA. Et c'est en train d'avancer. Nous avons même exporté, nous sommes en train d'exporter notre groupe. Ce concept...
Le groupe ATEPA.
Oui, oui, parce que nous faisons beaucoup de choses.
On va
peut-être
parler,
l'occasion d'en
temps.
Parler.
Ouais.
Au Bénin. Ou avec le président Patrice Talon, nous essayons de voir l'exemple que le Sénégal a de la PRODAG pour l'amener jusqu'au Bénin, etc. Non, il y a des programmes qui se font. Et là, je me réjouis du fait que notre ami, le patron de la BAD, ait pris en main ce programme de non seulement de modernisation de l'agriculture, mais de remettre l'agriculture au cœur du développement. Il y a d'autres choses à mettre au cœur du développement, on aura peut-être l'occasion d'en parler, notamment les mines, mais là, le fait que le patron de la BAD ait pris l'initiative de développer les agropoles et de remettre les jeunes au travail et dans l'agriculture, je le dis dans le livre. Si vous avez lu le livre, vous verrez qu'il y a un moment où j'ai demandé qu'on prenne tous ces jeunes-là qui sont désœuvrés, qu'on les remette dans l'agriculture. Je pense que c'est une des solutions à nos problèmes et au problème du chômage des jeunes.
Et vous dites aussi qu'il faut un peu sortir de la monoculture arachide et développer des nouvelles productions.
Mais non seulement bien sûr, c'est évident. Vous savez, quand vous cultivez un hectare de champignons, bon, c'est certainement le même effort, peut-être même moins qu'un hectare d'arachide comparé. Bon, je pense que là-dessus également, les autorités de beaucoup de pays que je connais sont en train de faire de la diversification intelligente.
Alors, vous expliquez aussi dans votre livre que le Sénégal devrait profiter des exemptions de taxes douanières promues par les États-Unis pour exporter des produits fabriqués localement au Sénégal. Est-ce que ça a eu lieu?
Je suis actuellement en train de réaliser pour l'État du Sénégal le parc industriel qui va dans la droite ligne de ce que je dis dans le livre. Nous sommes déjà à la première phase du parc industriel de Dakar qui a pour ambition effectivement de faire délocaliser certaines entreprises européennes jusqu'à chinoises au Sénégal pour pouvoir profiter de l'AGOA. Mais là, nous profitons de manière très timide à l'AGOA. Et là également...
L'AGOA, c'est cette politique justement des États-Unis qui permettent aux Africains d'exporter sans payer.
Mais c'est ça, vous craignez pas finalement, quand on voit les décisions de Donald Trump, on a l'impression que l'AGOA, il va pas faire long feu.
Bon, mais là, il est encore là au moins pour 5 ans. Voyons ce que nous pouvons faire.
Ah
et
bon,
c'est là également.
Vous pensez qu'il sera réélu?
qui ça. Non, non, je parle de Lagoa. Lagoa, encore une vie. Non, lui, Donald Trump, je veux pas être prophète de malheur, et dans ce cas, ce serait peut-être de bonheur. Je pense pas qu'il va terminer son mandat. Ils vont l'empêcher.
Est-ce que la politique économique de Trump, sa relation avec le monde extérieur, la réduction potentielle de l'aide américaine à l'Afrique, ça vous inquiète beaucoup, tout ça?
Ça m'inquiète, et c'est là où je voudrais qu'on arrête de parler d'aide. Je pense que nous sommes en 2017, il faudrait que nous revoyions les fonds fondamentaux qui vont nous permettre, nous, de ne plus avoir à être aidés. Je pense qu'il est temps qu'on revoie les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi? Parlons-en. Aujourd'hui, la Banque mondiale, le FMI nous disent « Oui, écoutez, il faut pratiquement tout privatiser. » Mais privatiser avec qui? Quel est l'Africain aujourd'hui qui peut vous sortir quand on vous dit qu'il faut faire une offre spontanée, que cette offre devrait être au moins de 100 millions de dollars? Quel est l'Africain qui peut le faire? Ils le disent pour que leurs entreprises, pour que leurs sociétés puissent continuer à venir nous prendre ce que nous devions faire nous-mêmes. Et c'est là qu'il faut revoir les choses. Il ne faut plus parler d'aide. Moi, quand on parle d'aide, je suis écœuré parce que normalement, si nous avions pris notre destin en main, notre destin économique, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de structurer, de restructurer nos économies. Regardez ce qui se passe dans les mines. Pourquoi est-ce qu'on nous dit oui, il ne faut plus que ce soit des sociétés étatiques? Pourquoi? Il faut que ce soit privatisé. Alors privé, c'est qui? Bon, c'est tout le monde, sauf nous. Je pense qu'il faut que nous ayons le courage, et c'est là où j'ai parlé au président de l'Union africaine. C'est ça les sujets qu'il faut évoquer. J'ai parlé au président Alpha Condé il y a une semaine. J'ai dit, monsieur le président, vous êtes le président de l'Union africaine. Il est temps que l'Union africaine écoute les opérateurs économiques africains, et je vous demande d'abord de nous réunir chez vous, les opérateurs économiques de toute l'Afrique, pour que nous puissions vous regarder les yeux dans les yeux et vous dire ce que nous pensons de la politique économique de nos pays. Il est temps que l'Union africaine se penche sur l'économie, sur les économies avec le privé africain.
Et vous plaidez donc pour qu'il y ait une forme de favoritisme qui soit accordé aux entrepreneurs africains.
Nous ne parlons pas de favoritisme. Le monsieur que vous voyez devant vous n'a eu aucune faveur de qui que ce soit. Il a travaillé sérieusement, il a travaillé honnêtement pour arriver là où il est arrivé.
Oui, vous le disiez vous-même, il y a beaucoup de domination dans certains secteurs, notamment des multinationales. Vous êtes un cas relativement rare, finalement.
Oui, mais ce n'est pas du favoritisme. Mm-hmm. C'est ce qui est de droit. Nous avons des ressources qui sont chez nous. C'est notre droit. C'est pas des faveurs. Ce qu'il faut maintenant, c'est des mécanismes à créer ou à inventer pour qu'effectivement des gens, des opérateurs qui n'ont pas les moyens financiers, il faut le dire, comment les organiser pour que ces moyens financiers-là soient à leur disposition. C'est une question d'organisation et de méthode.
Alors Pierre Goudiabiatepa, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On continue à parler de ces questions. Votre groupe se diversifie, vous y avez fait allusion. Il s'est, outre l'architecture, lancé dans des activités minières. Sur le site internet de votre groupe, vous expliquez que c'est pour permettre aux Africains de prendre en main le développement économique du continent, ce que vous venez de dire. Mais en quoi est-ce que l'activité minière a jamais permis au continent africain de se développer, même quand les compagnies étaient des compagnies publiques, comme ça a été le cas en RDC, par exemple?
Oui, bon, il faut pas mélanger non plus les choses. Vous savez, quand je dis qu'il est temps que nous prenions les choses en main, je vais vous donner un exemple. Actuellement, avec un associé africain, nous sommes en train d'investir un peu d'argent dans les phosphates de colza. Ça va nous coûter, au bas mot, peut-être 4, 5, 6 millions d'euros.
Au Sénégal.
Au Sénégal. Alors, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut que les États aident les opérateurs locaux, puissent investir le secteur des mines. Et c'est ce que je reprochais tout à l'heure à Bretton Woods, qui nous dit oui, il faut
donc privatiser. Donc à Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, etc.
Oui. Ils disent privatiser, mais quand ils disent privatiser, oui, c'est pour leurs entreprises, c'est pour les entreprises européennes. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions en nous regardant les yeux dans les yeux avec nos preneurs de décision pour que nous puissions, nous, investir dans ce qui peut être la richesse de l'Afrique?
Pour ces activités minières, vous êtes associé, c'est ce qu'on peut lire sur votre site internet toujours, je dévoile pas de grands secrets, avec des intérêts russes, avec des intérêts luxembourgeois. C'est pas des origines, les Russes, les Luxembourgeois, qui sont des garants de transparence.
Non, attention, les Russes, ils sont pas tous les Luxembourgeois
non parce
non
que
plus.
Vous dites enterrer c'est... la Banque mondiale,
attendez,
mais là vous allez chercher de l'argent.
Là il ne faut non plus pas faire d'amalgame. Nous ne pouvons pas, le monde d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. C'est pas possible. Il faut diversifier et nous, dans le site, vous verrez que nous prenons, nous faisons du partenariat avec les autres industriels des autres pays. Nous en faisons notre credo. Parce que nous savons que seuls, nous ne pouvons pas le faire. Oui, j'ai des associés russes. Oui, j'ai des associés chinois. J'ai des associés luxembourgeois pour faire beaucoup de choses. Il n'y a rien de mal là-dedans. Non seulement il n'y a rien de mal, je pense que les Africains devaient voir comment prendre des partenariats avec ceux qui ont les moyens financiers et techniques. Il n'y a rien de mal en ça, et même mieux, je pense que c'est ce qu'il faut pour que nous puissions développer ensemble nos ressources.
Vous faites des reproches assez sévères à la Banque mondiale. Hein, mais il y a un point important sur lequel les institutions internationales insistent généralement, c'est sur la transparence, c'est sur la bonne gouvernance. Et parfois, c'est vrai, dans les expériences, notamment des sociétés publiques africaines dans le pétrole et dans les mines, on a eu quand même beaucoup de corruption, beaucoup de gabegie. Un point justement sur le pétrole au Sénégal. Vous êtes, on le sait, proche de Franck Timis, hein, puisque votre nom a été cité plusieurs fois dans les liens entre Franck Timis et Aliou Sall, le frère du président. Est-ce que voilà, des gens comme Franck Timis sont vraiment des modèles de gouvernance, de transparence, de bonnes pratiques?
Je ne porte pas de jugement sur mes amis. C'est un ami. Nous ne faisons pas d'affaires, c'est clair. Je l'ai aidé à signer son premier contrat pour des questions stratégiques que j'ai expliquées. J'ai dit au président de l'époque, si vous ne creusez pas, si vous ne le laissez pas, parce que lui, il prend le risque. Attention, aujourd'hui, c'est très simple, c'est très facile de critiquer Franck Timis. Quand personne n'a voulu s'arrêter au Sénégal pour faire de la prospection parce qu'il n'y avait pas d'indices, personne n'a rien dit. Il est venu me voir, il m'a dit, je veux prospérer. Mais je ne peux pas parce que le président dit que c'est de la malédiction. Je lui ai dit, écoutez, il l'a dit. Il dit oui, mais s'il ne le fait pas, moi, j'ai déjà signé avec un pays que je nommerai pas, que je connais. On va, s'il fort, je lui ai dit non, s'il fort, c'est notre pétrole qu'ils vont prendre. C'est là où j'ai pu convaincre le président. Ceci dit, il a foré, il a trouvé. On doit d'abord lui dire, écoutez, monsieur Timis, merci, vous avez trouvé ce qu'on cherchait depuis très longtemps. Maintenant, passons à table. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'État du Sénégal, avec les opérateurs? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Franck Timis a trouvé, bon, maintenant, et c'est là où je reviens, c'est au gouvernement de voir comment négocier avec les sociétés qui ont trouvé pour voir qu'est-ce qu'on fait après. Et c'est là où, encore une fois, je pense qu'on est peut-être sur la bonne voie, puisque, comme vous le savez, le président du Sénégal a décidé de la création du COS, qui est du COS Pétrogaz, pour surveiller, pour gérer. C'est un organisme qu'il a mis en place pour gérer avec le maximum de transparence les ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Et il va déjà commencer par faire une école du pétrole et du gaz.
Donc vous nous avez déjà parlé, mais cela ne convainc pas tout le monde. Écoutez ce que disait la semaine dernière dans cette émission, à la place où vous êtes aujourd'hui, Philippe Chalmin, sur ces questions pétrolières, gazières et la transparence.
La vie est très différente en Angola, au Gabon, au Congo, mais aussi, bien entendu, au Nigeria, avec du pétrole à 50 ou 55 dollars le baril comme aujourd'hui, et non du pétrole à 110 dollars, et même plus comme nous l'avons eu les années précédentes. Le drame, si vous voulez, c'est que la plupart des pays n'ont pas eu la sagesse des Norvégiens, qui était de mettre l'argent de côté pour les générations futur, parce que cet argent, ils l'ont claqué. Je le dis aujourd'hui à mes amis sénégalais. Vous savez que on vient de découvrir du gaz naturel au large du Sénégal, presque à la limite de la Mauritanie. C'est une chance, mais c'est un défi. Et de grâce, qu'il ne gâche pas cette chance et qu'il ne termine pas comme la Guinée équatoriale. Si vous voulez l'exemple de le pire peut-être en Afrique de ce qu'est la prévarication, la corruption à la fois des hommes mais aussi des circuits économiques. La Guinée équatoriale est un des pays où le pourcentage de gens mal nourris est le plus élevé de toute l'Afrique.
Alors c'était Philippe Chalmin, spécialiste très connu des matières premières.
Il a parfaitement raison.
Et est-ce que vous craignez que le Sénégal, justement, évolue comme la Guinée équatoriale ?
Je ne le crains pas. C'est pour cela que je vous ai dit, heureusement, qu'il y a ces mauvais exemples-là. Et je pense, honnêtement, que le fait de cette nouvelle transparence, non seulement dans la gestion, mais déjà dans la préparation des générations qui vont venir pour gérer ce pétrole-là, je pense qu'elle est là. Il suffit maintenant d'encadrer cette volonté politique. Et encore une fois, ce que je dis, pourquoi ne pas passer par l'épargne publique pour investir dans l'exploitation. Vous savez, nous, le mécanisme que nous voulons mettre en place, que nous suggérons, c'est de voir comment utiliser, et parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, comment utiliser, par exemple, l'épargne des migrants, l'épargne de notre diaspora. Il y a des milliards et des milliards qui viennent au Sénégal, mais ce n'est pas structuré, ce n'est pas organisé. Nous voulons que ce soit la diaspora notamment et les autres, le Sénégalais lambda, qui puissent investir dans les recherches, dans les richesses minières. C'est tout ce que nous disons et nous l'avons dit dans le livre. Il suffit simplement d'organiser, de structurer.
Frédéric Maury.
Vous le disiez au début de cette émission, vous êtes aussi le président de la BRVM, c'est la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, la Bourse de l'UMOA. C'est une position un peu inattendue pour vous. Vous êtes à la fois architecte, homme d'affaires, et puis vous devenez président d'une bourse alors que c'est pas votre métier, a priori.
Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Et moi, mon ami Abessina, qui dirige la BAD, est un agronome. Et vous savez que le patron de la Banque mondiale, c'est un chirurgien, n'est-ce pas? Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'antinomie. C'est pas parce que je suis architecte que je ne m'intéresse pas au marché financier ou que je ne m'intéresse pas à la création de la richesse.
Est-ce que votre entreprise elle-même est introduite en bourse?
Non, pas encore, mais elle y pense. Mais surtout, ce qui est intéressant de la bourse, et c'est ça qui est important pour moi. La raison pour laquelle le conseil d'administration m'a mis là, c'est pour que nous puissions voir comment réfléchir pour que la bourse soit non seulement à la disposition de tous, mais que tout le monde comprenne que c'est un instrument extraordinaire qui peut nous amener, qui peut nous aider à organiser l'épargne publique, notamment pour le développement.
Un instrument extraordinaire, c'est-à-dire pourquoi? Pour financer des projets?
Pour financer les projets d'infrastructure, pour, là par exemple, je vous ai parlé de la ville nouvelle du Lac-Rose, nous sommes en train de voir comment lever des fonds, c'est ce que j'ai expliqué, pour que le Sénégalais lambda puisse quelque part mettre son argent et participer non seulement au développement de la ville nouvelle, mais participe à la cueillette des dividendes. C'est aussi simple que ça.
Un de vos combats quand vous avez été nommé à la présidence, c'était que les grandes entreprises ou les, on va dire, les grandes structures de la région viennent en bourse parce qu'il était important.
Elles sont en train d'arriver.
Important. Or, finalement, il y en a qu'une, c'est la Sonatel. Sinon, les autres, c'est quand même plutôt des structures privées. Il n'y a pas de grands ports, il n'y a pas de.
Oui,
de
ça, là, vous avez d'État. Raison.
Vous avez ça veut
raison.
Dire que vous n'êtes pas parvenu à convaincre, et pourtant, vous avez des relations, on l'a bien compris.
Oui,
vous n'êtes
non,
pas parvenu à convaincre les nombreux chefs d'État que vous conseillez.
Oui, c'est difficile. C'est plus difficile que je n'avais pensé.
Pourquoi?
Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop de transparence. Il faut le dire. Or, la bourse, c'est quand même la transparence. Mais je ne perds pas espoir. Je sais qu'il y a des sociétés d'État qui vont être admises à la cotation dans quelques temps.
Lesquelles?
Non, je ne peux pas vous le dire pour le moment parce que c'est...
Faites preuve de transparence, dites-nous lesquelles.
Non, il y a de grandes sociétés. Mais mieux que ça, ce que nous essayons de faire à la bourse, c'est de développer le compartiment, par exemple, des PME. Les petites et moyennes entreprises, pour qu'elles puissent être cotées. Il n'y a pas que les gros, parce qu'il y a une multitude de petites et moyennes entreprises qui sont là, qui devraient être accompagnées, notamment par la bourse. Nous sommes en train de travailler sur ce que nous avons appelé les diaspora bonds, les obligations de la diaspora, encore une fois, pour voir comment mobiliser cette épargne de la diaspora pour qu'ils puissent participer plus, j'allais dire, effectivement dans le développement de nos pays. Mais surtout, nous voulons développer le compartiment minier. Pourquoi ? C'est trop facile. Pratiquement toutes les mines de l'Afrique sont cotées à Amsterdam ou
à Londres, ou en Australie.
C'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les Australiens, ce sont les Canadiens et autres qui sont en train de profiter de nos richesses. Et c'est pour cela que je vous dis qu'il est peut-être temps que nous revoyons les fondamentaux. Et ça, ça fait partie des fondamentaux.
Ce que vous préconisez, c'est le développement, en quelque sorte, d'un capitalisme populaire.
Absolument, vous pouvez l'appeler comme ça, mais en tout cas, une participation de tous à tout ce qui est une richesse commune, qui sont nos matières premières.
Mais il y a d'autres choses que les matières premières.
Alors, mais bien sûr qu'il y a d'autres choses que les matières premières.
Lesquelles ?
Il y a d'abord cette nouvelle économie de l'intelligence. Est-ce que vous savez que dans les années qui viennent, et c'est pour cela que je m'intéresse aux satellites, est-ce que vous savez que dans les années qui viennent, il y a la moitié des métiers que nous connaissons qui va disparaître? Et il y a de nouveaux métiers qui vont naître. C'est ça la prospective.
On vous invitera pour en reparler, Pierre Goudiaby. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est maintenant terminée. Elle était réalisée, mise en onde par Guillaume Munier. Frédéric Maury, je vous dis au mois prochain, probablement mois prochain, pour une nouvelle émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.